Mais ça, c'est un truc qui m'a longtemps suivi, c'est que j'ai quand même grandi, et d'ailleurs, c'est même ce que je dis aux gens, c'est un miracle, hein, moi, ce qui m'est arrivé. En vrai, j'ai eu de la chance dans mon parcours, beaucoup de chance. Le fait d'avoir peu d'ambition m'a quelque part un peu servi, parce que moi, enfin, on pourrait croire que c'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est vraiment la stricte vérité. Quand j'étais à la fac, moi, je m'étais dit, au pire, j'aurais une entreprise de mecs qui filment des mariages et des anniversaires, et puis je montrerais ça, et puis à côté de ça, avec l'argent que je gagnerais, peut-être je me ferais des petits courts-métrages et que ce sera ma porte d'entrée pour autre chose, mais je voyais vraiment petit, quoi. Et franchement, ça m'aurait suffi. J'étais très heureux de pouvoir, si j'avais pu filmer des mariages, etc. T'imagines, tu filmes et tu montes le moment le plus important de la vie des gens. Moi, j'étais complètement OK de faire ça dans ma vie, quoi. J'aurais trouvé ça mortel.
Bonjour à tous, vous écoutez Cadavre Exquis, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois un réalisateur, scénariste et podcasteur ayant fait ses armes sur la plateforme YouTube. Il vient de sortir son premier film, Nouler le Roi, avec José Garcia et Charlotte Gainsbourg, qui a déjà obtenu le Grand Prix de la Comédie au dernier festival de l'Alpe d'Huez. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Florent Bernard. Salut Florent.
Salut.
Comment ça va?
Ça va et toi?
Super, merci de participer à ce podcast qui s'appelle Cadavre Exquis, dans lequel je décompose des parcours inspirants. Le 10 avril sort ton premier film que tu auras écrit et réalisé, Nouler le Roi,
ouais.
Grand Prix du Festival de l'Alpe d'Huez. Félicitations.
Bah écoute, c'est cool, ça fait plaisir. Ça fout la pression aussi, parce que du coup les gens ils disent, c'était le Grand Prix, donc voyons voir. T'sais, ils te regardent dans les bras croisés, mais non, je suis content.
Mais avant de commencer cet entretien, moi je voulais te poser une question un peu perso. Comment t'as trouvé le concert des Queens of the Stone Age?
Ah, t'y étais?
J'étais derrière toi.
Ah ouais, d'accord.
Ça fait un peu stalker, dit comme
non,
ça.
Non. Bon, écoute, c'était cool, c'était chambé. Surtout, moi j'ai un problème quand je vais voir les concerts, je regarde les setlists qu'ils font dans les salles d'avant. Mais ça, je fais ça avec tous les concerts. Et là, il y en a une qui faisait jamais, que j'adore, qui est Song of the Deaf. Et ils ont fini avec Song of the Deaf. Et ça, j'étais très content.
Final épique.
Ouais.
Tu vas donc sortir ton premier film en tant que réal, je précise, parce que tu as déjà écrit sur des films qui sont sortis au ciné, Jack Mimoune, Vermine. Ouais. Tu as eu un joli succès d'ailleurs.
Ouais, c'était cool, Vermine. Ouais, ça faisait plaisir. C'est surtout le talent de Sébastien Vanitschek, mais si j'avais pu un tout petit peu aider à mon rang de scénariste, c'était cool.
Et pourtant, rien ne te prédestinait à faire du cinéma. On va un petit peu revenir sur tes débuts, parce que tu n'es pas du tout un enfant de la balle, je crois. Je voulais savoir simplement, déjà pour planter le décor, où c'est que tu es né et où c'est que tu as grandi.
Alors, je suis né au Creusot, en Bourgogne, mais c'est parce qu'il n'y avait pas de maternité là où mes parents vivaient, puisque j'ai vécu à Autun pendant 18 ans de ma vie, qui est une petite ville en Saône-et-Loire, en Bourgogne. Voilà, ville historique, très belle cathédrale, etc. Mais... pas grand-chose quand t'es adolescent. Il y a de la forêt quand t'es enfant, mais dès que t'as passé 11-12 ans, tu te fais un peu chier, faut le dire la vérité. Mais il y avait un cinéma, ça c'était cool, parce qu'en plus les dirigeants du cinéma de l'époque, enfin je pense qu'ils sont toujours super, mais je sais qu'ils ont changé, proposaient énormément de films différents, des blockbusters, des trucs un peu plus indés, des fois des trucs d'horreur, alors que personne n'allait les voir à part les quatre connards du lycée Bonaparte. Donc voilà, et puis je pense que c'est de l'ennui que se créent aussi des choses.
Moi je viens de Carcassonne.
Un peu plus grande quand même.
Un peu plus grande.
Un peu cool.
Mais là où les films arrivaient avec 6 mois de retard.
Ah bah ouais, évidemment. Ah bah moi je te dis pas, on n'avait pas les sorties nationales. On avait, même quand c'était encore les pellicules, autant te dire que le truc était dans un état, il avait déjà tourné dans 12 cinémas, donc c'était un peu cramé. Je me souviens d'une projo des Power Rangers où carrément la bobine a lâché. Tu vois. Donc on n'a pas eu j'ai jamais eu la fin, parce que je ne l'ai pas rattrapé. J'ai jamais eu la fin du film Power Rangers.
Et je crois que le ciné, c'était quelque chose que tu partageais vraiment avec ton père, une fois par semaine minimum.
Enfin, c'était un rituel, mais on ne l'a jamais ritualisé dans notre tête. On ne se disait pas, OK, samedi, c'est cinéma. Mais c'est vrai que mon père avait ce truc de... Si tu voulais passer du temps avec lui, il fallait le suivre dans ses passions. Alors, je dis ça pas du tout en mode quel connard égoïste, mais du coup, effectivement, lui, il aimait aller à la piscine, donc il prenait ses enfants avec lui pour aller à la piscine. Et on allait au cinéma, donc il prenait ses enfants pour aller au cinéma. Et donc, moi, le cinéma, c'est vrai que ça a été la vocation. Alors, en plus, je mets ça conjointement avec le fait qu'il enregistrait tout ce qui passait. C'est vraiment un gars qui a connu l'arrivée du magnétoscope. Et du coup, dès qu'un film passait à la télé, bah, vraiment, il enregistrait, quoi. Mais même des trucs, je pense qu'il l'intéressait pas. Il faisait vraiment le truc de mettre pause au moment de la pub et puis de bien relancer au bon moment pour pas avoir la coupe. Et il achetait des télécassettes, qui était le journal télé de l'époque, pour avoir les belles jaquettes et tout. Et on avait une énorme collection de cassettes vidéo. Donc ouais, j'ai beaucoup baigné dans le cinéma. Et c'est vrai que mon père, il est jardinier, paysagiste. Donc, il passe beaucoup de temps dans la nature, la forêt, les jardins et tout. Et ça, c'est une vocation qui n'a jamais trop été la mienne. J'aime bien me balader, etc. Mais tout ce qui est paysagiste, c'est pas trop mon truc. Donc on a vraiment connecté sur le cinéma. Et puis, pour le coup, ma mère, pas trop. Elle regarde pas trop de films. Donc c'était vraiment mon truc entre mon père et moi. Mon frère, pareil, pas des masses. Donc, voilà.
Et il paraît quelque chose qui a été game changer dans ta vie, c'est l'arrivée de CanalSat. Et PS
ouais,
pour certaines familles.
T'as bien bossé. Ouais, ouais, bah. En fait, c'est ça. Je pense que mon père est vraiment quelqu'un de cinéphile, mais pas dans le côté... Il n'y a pas l'air des magazines sur le cinéma ou des analyses de cinéma, mais il est vraiment cinéphile de... Il aime regarder des films, quoi. Il a faim de films. Et je pense que, ouais, l'arrivée de Canal Satellite... Alors après, on n'avait pas Canal+, parce que c'était trop cher. Mais Canal Satellite, c'est vrai que tu avais les ciné-cinéma, les chaînes comme ça, qui étaient thématisées. Donc du coup, il trouvait... Enfin, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, là. Forcément, avec les plateformes, tu tapes le titre de ton film, il y en a, mais... Mais là, il y avait, c'était rangé par catégorie. Donc, tu avais ciné-cinéma club, je crois, c'était les vieux films. Ciné-cinéma frisson, alors là, c'était les films un peu plus de genre, d'horreur. Et puis, ciné-cinéma famise, là, c'était les films pour enfants. Enfin, voilà. Et ça, c'était assez exceptionnel, ouais.
Tu l'as dit, c'est dans l'ennui que se créent des choses. Je ne sais pas si tu étais fils unique ou pas.
Non, non, j'ai un petit frère.
Enfin, moi, je suis fils unique, ouais. Petite ville, donc je me reconnais beaucoup dans ton histoire. Et c'est là où tu as envie de pousser les murs de ta chambre, de ta ville, et que des choses se créent. Est-ce que tu avais côté un peu geek, pop culture Bastien Balthazar Bucks, l'histoire sans fin, parce que c'est ça l'histoire de.
Ouais, il y a un peu de ça, il y a un peu de ça. Ouais, ouais, ouais. Après, j'étais un geekos de ça, de pareil, de boulimie de films, de vouloir regarder plein de trucs. Et puis moi, par contre, à la défense de mon père, je voulais savoir comment on faisait, donc je m'intéressais beaucoup. Puis si lui a vécu l'arrivée de la VHS, moi j'ai vécu l'arrivée du DVD. Et le DVD, c'était assez exceptionnel parce que d'un coup, t'as les bonus, t'as les commentaires audio, t'as les scènes coupées. Et comment c'est fait un film devient presque aussi intéressant, et parfois plus, que le film lui-même, quoi.
C'est une masterclass dans ton salon.
C'est ça, c'est des cours, mais moi j'ai fait mes classes là-dedans. Je me souviens du commentaire audio de Bernie, d'Albert Dupontel, où vraiment, Albert Dupontel, c'est pas un réal qui te dit oh, « qu'est-ce qu'on s'est marré ce jour de tournage ». Non, il te dit « ok, alors ce plan, voilà, je l'ai fait comme ça, vous voyez ». Et donc, du coup, vous voyez, j'ai fait ça, comme ça, et tu vois, il est vraiment didactique, quoi. Et ça, je trouvais ça génial. Je me suis dit « putain, je prenais des notes, hein, carrément, je faisais vraiment mes devoirs sur ce truc-là ». Ma mère était un peu inquiète sur le côté, parce que j'étais vraiment, je regardais beaucoup, beaucoup, beaucoup la télévision. Mais elle se rassurait en disant que c'était pas des émissions télé, c'était pas Love Story, c'était vraiment que de la fiction. Donc il y avait un peu un truc de bon, bah il se cultive un peu, puis au moins il est pas dehors à acheter du crack, quoi. Donc elle était assez rassurée de ça. Se réfugier, c'est toujours un mot auquel je fais attention parce que l'ambiance à la maison était pas horrible, quoi. Enfin, tu vois, le collège c'était un peu plus compliqué, je me faisais un peu emmerder et tout, mais donc je me suis geekisé un peu au collège et c'est ça qui fait qu'au lycée ça s'est bien passé parce que d'un coup j'avais vu tous les films, je proposais de mater des films avec les potes, etc. Et cette culture ciné m'a vachement servi au lycée. J'étais devenu le gars qui mate des films, quoi. Enfin, tu vois, t'es vite catalogué quand t'es à l'école. Et puis, c'est-à-dire que c'était même pas fait exprès, c'est que je savais rien faire d'autre, quoi. Moi, je voulais faire des films depuis que je suis très petit. Et lorsque la conseillère d'orientation m'a dit, bah oui, d'accord, mais sinon, quoi d'autre? J'étais vraiment emmerdé. J'étais genre, bah, soit je travaille dans un cinéma, soit dans un vidéoclub, soit. Enfin. Rien d'autre ne m'intéressait, quoi.
Depuis tellement petit que dès qu'il y avait une sortie à Disney ou au karting. Tu prenais l'appareil pour filmer?
Ouais, putain, t'as vraiment très, très... Tout le monde te dit ça, hein. Mais bon, pardon, je vais arrêter de notifier quand t'as bien bossé, je suis sûr que t'as bien bossé en général. Ouais, et même, pour le coup, ma mère, elle voulait pas, parce que j'étais très maladroit comme gamin, donc en fait, j'arrêtais pas de faire tomber les trucs, donc elle avait pas du tout envie d'eux. Mais oui, moi, je me souviens même de... On était allé à Disneyland, et on avait fait le... Je crois qu'il n'existe plus, ce spectacle. Il y avait un spectacle de cascadeurs. Donc en fait, c'était... On t'expliquait comment... Ça s'appelait Moteur Action, je crois. Tu voyais un spectacle de cascade, donc des voitures qui faisaient des dérapages, des mecs qui tiraient à la mitraillette, des motos qui prenaient feu, etc.
Mad Max, quoi.
Et ouais, c'est ça. Et moi, je me souviens, je prenais la caméra et je me baladais dans le truc parce que je me disais, je vais prendre plein de plans différents et je vais pouvoir faire le film à la maison, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si là, on m'offrait la possibilité de filmer un film d'action à 3 millions d'euros, mais je paye rien, c'est à Disney, tu vois. Et je m'étais fait engueuler, parce que personne t'engueule à Disney, mais la sécurité m'avait dit, monsieur, enfin. Hey, salut mec, t'as pas trop le droit de te balader comme ça, enfin, tu vois, très gentil. Et voilà, et du coup, j'avais fait mon petit montage de mes scènes d'action, de moteur action sur mon ordi, sur Movie Maker à l'époque.
Si t'avais les petits numériques avec l'objectif qui sortait là.
Bien sûr.
C'était des rushs de une minute, non?
Ouais, non, mais c'est ça, tu pouvais pas faire beaucoup. Et puis la qualité, en fait, elle était dégueulasse. Dès que je pouvais filmer des trucs, mais ça, c'est un truc qui m'a longtemps suivi, c'est que j'ai quand même grandi. Et d'ailleurs, c'est même ce que je dis aux gens, c'est un miracle, hein, moi, ce qui m'est arrivé. En vrai, j'ai eu de la chance dans mon parcours, beaucoup de chance. Le fait d'avoir peu d'ambition m'a quelque part un peu servi. On pourrait croire que c'est facile à dire aujourd'hui, mais c'est vraiment la stricte vérité. Quand j'étais à la fac, moi, je m'étais dit, au pire, j'aurais une entreprise de mecs qui filment des mariages et des anniversaires. Et puis, je montrais ça. Et puis, à côté de ça, avec l'argent que je gagnerais, peut-être je me ferais des petits courts-métrages et que ce sera ma porte d'entrée pour autre chose. Mais je voyais vraiment petit, quoi. Et franchement, ça m'aurait suffi. J'étais très heureux de pouvoir... si j'avais pu filmer des mariages, etc. T'imagines, tu filmes et tu montes le moment le plus important de la vie des gens. Moi, j'étais complètement OK de faire ça dans ma vie, quoi. J'aurais trouvé ça mortel. Et c'est toujours été ça, quoi. Après, je me satisfaisais à chaque fois de ce que j'avais, mais la vie a fait que j'ai fait des trucs de plus en plus gros, quoi.
La vie et trois mecs, parce que tu dis souvent que tu dois ta carrière à trois mecs. Ouais. David Mourier, François Descraques,
ouais. Et Monsieur Poulpe.
Bah, qui est sur l'interphone, je crois, dans le film.
Ouais, ils y sont tous. En fait, c'est surtout Davy Mourier, pour être tout à fait honnête, même si Poulpe et Décra ont été très présents. Tu vois, Décra qui m'a donné du travail après le Golden Show, etc. Et Poulpe a toujours été très présent et toujours aujourd'hui. Il est un peu comme mon tonton, dans tous les sens du terme. mais Davy, je sais que c'est celui qui a été touché parce que j'avais fait un court-métrage adapté d'une de ses BD, qui était une merde, hein, pourtant. Là, le court-métrage, la BD était super, mais moi, j'avais fait une adaptation toute pourrie, de jouer dedans, mal, etc. Bref. Et je sais pas, il a senti un potentiel, il a senti un truc et il m'a fait confiance. Et ouais, je devrais toujours une petite à ce mec parce que... Il faut savoir mettre le genou à terre devant les gens qui t'ont tendu la main, quoi. Moi, en plus, je tends pas tant que ça la main parce que le fait est que je trace ma route. Et Davy, ce qui est rigolo, Davy Mourier, c'est que c'est un mec très solitaire, très... Quand tu le vois comme ça ou quand tu lis ce qu'il fait, t'as l'impression qu'il aime pas les gens. Et en fait, ce mec-là a tendu sa main à tellement de gens, à tellement de petits jeunes. Il les a aidés. Après, quand il a eu la possibilité d'avoir sa propre collection de BD, il a fait que demander à des gens qu'il aime. C'est quelqu'un de très généreux et je lui dois beaucoup.
C'est vraiment un des pionniers, lui.
C'est un des pionniers et puis il est toujours resté droit. Il n'a jamais été tenté de se vendre ou de choses comme ça. Il a toujours voulu juste kiffer ce qu'il faisait. Il a un noyau dur de fan qui est, je pense, toujours le même depuis peut-être bientôt 20 ans. En tout cas, au moins 10. Et je trouve ça assez joli, quoi. Et puis, il développe son art, la BD. Il fait des BD exceptionnelles. Et il continue à faire son émission sur YouTube. Et j'ai l'impression que ça lui va bien et qu'il en est heureux. Et c'est vraiment un super mec.
Après, il y a eu la période où tu t'es vraiment révélé aux yeux de tous, Golden Show, Golden Moustache, Suricate, Studio Bagel.
Ouais.
Alors pour moi, c'est vraiment une nébuleuse parce que je regardais pas trop et c'est les mêmes gars.
Pourtant, il y avait un peu deux clans. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait un peu les Rostats Studio Bagel et nous, on était un peu les nullos de Golden Moustache. Et après, moi, j'ai écrit pour Bagel.
Tu réalisais, tu écrivais. Et plus tard, avec Le Visiteur du Futur, tu as même fait le montage. C'était vraiment une école géniale, quoi.
En fait, pour être tout à fait, c'est pas pour te reprendre du tout, mais le Visiteur du Futur, c'était avant. C'est que moi, j'ai fait le Golden Show où j'étais assistant stagiaire, en vrai. Donc, sur le papier, assistant monteur, mais je faisais, je faisais les making-of, j'apportais le matos. Voilà, c'était une toute petite équipe. Hein. On était, franchement, il y avait eux trois, Vanessa Bria, qui était un peu la prod, Rémi Argo qui cadrait et Clément Morin qui prenait le son. Donc, tu vois, c'est tout. Et après, effectivement, quand le Golden Moustache s'est créé, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont appelé beaucoup, beaucoup de gens. Et il n'y avait pas tant de thunes, même si c'était M6, c'était quand même un peu d'argent que tester M6, donc il n'y avait pas énormément. En gros, les gens se barraient semaine après semaine. Et après, on a fini tous les quatre avec Raphaël Descrac, pour le coup, Julien Josselin, Vincent Tirel. Et voilà, et c'est comme ça qu'on a commencé. Mais oui, école de fou. Et puis, tu dis écrire, réaliser, mais même monter, faire la vignette, faire l'étalonnage, commencer à gérer des petites équipes, apprendre à diriger des comédiens, effectivement, tout s'est fait là. Et même sur mon long métrage aujourd'hui, j'ai des choses où je me rends compte que c'est ce que j'ai appris sur ces tournages-là qui m'ont fait effectivement école, quoi.
Puis t'es monté vraiment en puissance, bloqué, la flamme, le flambeau.
Puissance, je sais pas. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression que j'étais plus connu quand je faisais de l'internet à ce moment-là, mais j'en avais rien à foutre. Moi, je voulais pas être connu. Enfin, d'ailleurs, je veux toujours pas être connu. J'en ai rien à faire. Je veux juste pouvoir raconter mes histoires. Non, ce qui était génial avec la flamme, le flambeau et bloqué, c'est que je travaillais avec des gens dont j'étais vraiment archi fan. Et ça, j'ai essayé de le garder depuis. C'est que Aurel San, j'écoutais au lycée et en vrai, pareil, je pense que c'est important d'avoir des modèles. C'est marrant, on parle tout le temps des modèles quand on a 12, 13, jusqu'à mes 18 ans, mais moi j'ai toujours des modèles. Et Aurel San en fait vraiment partie parce que, bah, tu vois, c'est aujourd'hui mes producteurs de mon film, c'est ces producteurs-là, les gens de Nolita, Maxime et Romain. C'est parce que Aurel San m'a dit, ces mecs-là, tu peux avoir confiance. Et quand Aurel San te dit, tu peux avoir confiance en des gens, tu peux avoir confiance en des gens.
Mais là, avec tous ces projets, tu t'installes quand même dans les médias traditionnels, Canal en l'occurrence.
Ouais, en fait, surtout, je monte pas de blanche, je pense. C'est-à-dire que faut être honnête, hein, cette génération Internet, pour la plupart des gens, franchement, en vrai, sont un peu mal vus. Faut dire les choses, tu vois. À l'époque, hein, ça a énormément changé. Maintenant, ils font danse avec les stars.
C'est bizarre.
Bizarre. Et puis rivalité, et puis surtout, qui vous êtes en fait. Ça a l'air de marcher. Mais en même temps, on ne sait pas ce qu'est une vue, tu vois. Donc, on n'arrête pas. Peut-être tout de suite, ils vont dire. Oui, mais des vues, c'est pas des gens. Enfin, tu vois, il y a toujours cette espèce de méfiance, mais qu'une méfiance de tous les nouveaux médias, les nouveaux trucs. Enfin, quand Canal+ est arrivé, je suis pas sûr que les chaînes traditionnelles étaient tout sourire, tu vois. Donc ouais, ça, c'était un petit peu bizarre. Et effectivement, moi, j'ai juste voulu prouver que j'étais pas une star d'Internet ou un gars d'Internet. Je suis auteur, en fait. Je suis scénariste et réalisateur, mais surtout scénariste à l'époque. C'était ma petite porte d'entrée. Et le fait est que j'en ai fait beaucoup pour Internet, mais je peux en faire pour plein de choses. Et je pense que c'est ce qui m'a différencié de plein de gens de la même génération que moi. C'est que moi, j'avais pas l'ego tout de suite de dire je veux faire mes trucs, quoi. Moi, j'ai dit non, moi, je veux bosser avec des gens, je veux apprendre mon métier. J'ai pas fini. Quand j'ai quitté Golden, je pense que j'avais 23 ans, 24 ans.
T'étais le Solange te parle un peu des youtubeurs.
Ouais, je sais pas. Bah, c'est vrai que c'est Solange te parle, la Solange te parle des youtubeurs, mais.
Projet, un truc différent, quoi.
Ouais, mais en tout cas, j'avais un espèce de truc de je m'en fous qui est mon nom, en gros, sur quelque chose. Enfin, c'est pas pour moi, c'est marrant, j'ai l'impression d'être prétentieux en disant que j'étais humble, mais c'était pas de l'humilité, c'était vraiment un truc de je veux apprendre, j'ai l'impression que je peux aider à l'écriture. J'avais joué la comédie, je m'étais trouvé nul à chier et je suis pas un bon comédien. Donc j'avais ce truc de moi, je m'en fous d'apparaître, je m'en fous. Et là, d'un coup, il y a Kian, parce que c'est ça aussi. C'est Kian Kojandi et Bruno Muschio, Kian et Navo de Bref. C'est leur projet après Bref. Et ils me disent, ça dit de faire un programme court avec Aurel San et Gringe. Je dis, bah, mec, imagine. Mais en fait, c'est plus gros que tout ce que je pouvais imaginer. C'est plus gros que si on m'avait tout de suite proposé de faire un film sur Internet ou quoi. Pour moi, c'était bien plus énorme de pouvoir travailler avec ces gens-là. Et j'ai beaucoup appris. Et après, c'était pareil avec Jonathan Cohen. Quoi. C'était un mec que je trouvais hallucinant de drôlerie. Et d'un coup, je vais développer une série avec peut-être un des mecs, en tout cas, c'est sûr, un des mecs les plus drôles de France, adapté d'une série de Ben Stiller. À un moment, il faut avoir les pieds sur terre. C'est des cadeaux exceptionnels.
J'ai rencontré il y a peut-être 10 ans, et c'était quand même un petit peu connu dans le milieu, mais pas la notoriété qu'il a aujourd'hui, pour un film avec Julien Doré.
Ah, bien sûr, pas près dans le champ. Bien sûr. Exactement. Je fais partie des 12 mecs qui l'ont vu au ciné, je crois. Ouais. On devait être encore dans la même. T'étais derrière moi comme à Queen of the Stone Age. Tu devais être derrière moi.
Si t'étais à Toulouse. Mais ouais. Le gars m'avait fasciné en interview, drôle, marrant.
Bah, Jonathan Cohen, ça a souvent été le mec le plus drôle des gens du milieu. En fait, on sait tous que c'est une star, Jonathan Cohen, depuis 10 ans. Et on attendait juste que le public s'en rende compte. Mais il y a ça avec plein de gens. Thomas VDB a longtemps eu ça aussi. Thomas VDB, c'était l'humoriste préféré des humoristes. Et puis hop, un jour, ça se fait. Et tout le monde dit, bah oui, évidemment. Tu vois, évidemment que c'est le mec le plus drôle du monde. Pareil avec Sophie Marie-Laroui. Moi, je sens ça avec elle en ce moment. Tu vois, où ça fait moi des années que je la trouve à mourir de... Laura Felpin. Enfin, tu vois, c'est plein de gens où... C'est rigolo, moi, à Golden, j'ai vu l'arrivée de tellement de gens très, très marrants et que maintenant, je vois devenir des gigastars. Et je me dis, mais c'est évident. Tu vois, moi, Laura, elle est arrivée avec Anna Apter à l'époque. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, le babou de cette meuf, c'est dingue. En plus, j'avais pas eu la chance de travailler avec elle, parce qu'elle est un peu arrivée au moment où je me suis cassé. Je pouvais même pas prévoir le Molière, mais je savais que ça allait être une star. Et moi, tu sais, pareil, moi, j'ai fait venir McFly et Carlito à Golden Moustache. Et je savais que ces mecs-là, ils étaient prêts à. Ils pouvaient déplacer des montagnes, et puis ils l'ont prouvé maintes et maintes fois depuis. Donc, ça, c'est très agréable. Là, en ce moment, je suis vraiment dans ce kiff-là de me dire, putain, mais j'ai vu l'arrivée de tous ces gens. Et tous, ils sont en train de mener, tu vois, Jérôme Niel qui remplit des salles, etc. Tous, ils sont en train de mener leur carrière et tu peux pas savoir à quel point ça rend... Ils me le doivent pas du tout, hein, mais tu peux pas savoir à quel point ça rend heureux d'avoir été témoin de ces gens en train de douter, se dire, mais est-ce que je suis fait pour ça ? De se casser la tête, d'accepter des pubs de merde pour pouvoir payer un loyer et là, de les voir réussir et voir un public adhérer à leur cause. C'est un des trucs, je crois que c'est vraiment un des trucs qui m'ont le plus heureux au monde.
Je voulais te parler du film donc Nous les Leroy. Je voulais parler déjà sur la forme d'un film, 1h30. Toi qui as goûté au format court, aux séries, mais en même temps, je me dis que tu as écrit pour d'autres, tu as toujours bossé de concert avec le réal, donc tu avais toujours ce pied dans l'écriture et dans la mise en scène. C'était la suite logique, c'était le format qu'il te fallait pour raconter une histoire.
Ah ouais, puis c'était même mon but de base. Quand j'ai commencé, moi, j'avais pas prévu de faire des vidéos sur Internet, j'avais prévu de faire des films, ça n'existait pas, les vidéos sur Internet. Donc c'est le hasard de la vie qui a fait ça et la chance que j'ai eue. Mais oui, le film, c'était depuis longtemps que je voulais faire ça, surtout dans ce ton-là. Je savais le genre d'histoire où je pouvais être que scénariste. Tu vois, une grande comédie d'aventure, une parodie de télé-réalité, un film d'horreur. C'est pas des trucs que je me vois réaliser, et tant mieux, parce que c'était pas prévu que je les réalise. Mais c'est d'un coup une histoire un peu plus intime, avec ce mélange de comédie et d'émotion, avec des personnages hauts en couleur, mais quand même très humains. Ça, je sais que c'est des trucs que... C'est déjà ce que je faisais un peu dans les courts-métrages. C'est ce que je dis souvent aux gens. Pour moi, c'est presque un retour aux sources. Ça ressemble plus à ce que je faisais à Golden que tout ce que j'ai fait entre-temps. Mais forcément, avec plus de budget, plus de temps pour raconter l'histoire, plus de temps pour développer des personnages et pour créer un univers. Ça, c'est sûr et certain. Et oui, c'était la suite logique. C'était même le projet de base.
Pour pitcher le film rapidement, je vais reprendre le synopsis qu'on trouve partout. Sandrine Leroy annonce à son mari Christophe qu'elle veut divorcer. Leurs enfants ont bientôt l'âge de quitter la maison. Dans une opération de la dernière chance aussi audacieuse qu'invraisemblable, Christophe organise un week-end pour sauver son mariage. Un voyage passant par les endroits clés de l'histoire de leur famille. Un voyage qui ne va pas être de tout repos.
Ouais, c'est toujours dur hein, les pitchs. Hein, parce que...
On dirait le début de Là-haut.
Ouais.
Qui commence par un truc très négatif. Ouais. Et on revient un peu sur les pas.
C'est un peu le but.
De ce qu'a fait leur histoire.
Moi, je suis nul en pitch. En vrai, si tu me demandais le pitch du film, c'est, bon, c'est une famille et c'est la galère, quoi. Non, oui, mais ce qui est important là-dedans, dans ce pitch, c'est le. C'est les enfants vont bientôt quitter la maison. Moi, c'était ça, en fait, que je voulais raconter parce que j'ai été témoin de ce moment charnière que j'avais trouvé pas tant traité que ça au cinéma. Souvent, les ados sont plus jeunes ou sont des enfants. Ou voilà. Le moment où tu vas te retrouver solo en famille avec ton mec ou ta meuf, t'as commencé à deux, puis t'es devenu un groupe, une famille, puis tu redeviens deux. C'est ce que j'ai observé dans mon foyer, mais c'est ce qui me fait peur avec ma compagne, et c'est ce que, quand j'en parlais avec des gens autour de moi, je sentais que c'était... oui, du coup, tu doutes, tu te poses des questions. Est-ce que tu as encore envie? Tu as passé 18 ans de ta life avec tous tes enfants, et etc. Tu as bossé avec cette personne pour créer ce foyer, etc. Et ça y est, tu es re-deux, quoi. Mais 20 ans ont passé. Qu'est-ce qu'on fait? Et ça, je trouve que ça pose des questions, ça soulève des trucs. Et le pitch est presque un prétexte, puisque le road movie familial, c'est un genre en soi. Tu vois, il y en a eu plein en France comme aux États-Unis, tu vois. Mais ce moment-là, je trouvais que c'était vachement intéressant de le traiter.
Justement, ouais, c'est un genre en soi, donc c'est universel, donc ça peut parler au plus grand nombre. Comment toi, tu as voulu apporter ta singularité, justement, pour que ce soit quelque chose qu'on n'a pas déjà vu? Comment tu as apporté ta touche là-dedans?
Le fait que vraiment les enfants doivent quitter la maison, c'était déjà un peu l'originalité du truc. Après, l'idée aussi, c'était de mettre sur le même plan parents et enfants. Souvent, dans ces films-là, j'observais que c'était le film des parents et les enfants étaient un peu des seconds rôles, des fois un peu clichés, parce que, et c'est normal, hein, quand tu veux faire un film d'une heure et demie, bah, tu te concentres sur des choses. Et donc, du coup, souvent, les scénaristes, je trouvais, s'intéressaient aux parents. Et puis les enfants étaient, bah voilà, elle, ce sera une geekette, lui, ce sera un mec un peu dark. Bon. Moi, je voulais que les enfants soient les mêmes héros que les parents, mais sans en faire des singes savants. Je voulais que leurs problèmes d'adolescents soient traités avec sérieux, parce que quand t'es ado, bah ouais, le fait que ta meuf, elle va pas à la même fac que toi, bah, c'est tout ton univers qui s'écroule. Et je voulais le traiter sérieusement, sans qu'on se dise, oui, bon, bah c'est des problèmes d'ado, on s'en bat les couilles. Donc ça, c'était très important pour moi. Je voulais que si une famille va voir le film, chacun se retrouve un petit peu dans son personnage. Donc ça peut paraître prétentieux dit comme ça, mais oui, je voulais faire un film un peu multigénérationnel, entre guillemets, parce que mes films préférés le sont. Moi, mes films que j'aime, c'est la vie en mieux, quoi. C'est la vie avec plus de rire, plus de larmes, plus beau. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon long métrage. Et voilà, et après, l'autre différence, je pense, c'est ces années de voilà, si vous avez rigolé devant La Flamme ou Le Flambeau, il y a quand même cet humour-là aussi. C'était tout le challenge, c'était ce ton... des fois complètement flingué, mais avoir des vrais moments avec des seconds rôles complètement ouf, que ce soit Jérôme Niel, Sébastien Chassagne, Benjamin Tranier, Adrien Méniel, Sophie-Marie Laroui, ils ont tous leurs moments, mais en même temps, l'idée c'était d'éviter la succession de sketchs, puisqu'il y a cette histoire, ce noyau familial qui est le groupe que tu suis, et ça c'était aussi très important. Donc c'est un vrai travail d'équilibriste entre rire et émotion. Et pour terminer, je pense que c'est ça l'autre truc qui peut-être me différencie un peu des autres, c'est que l'émotion est très centrale dans le film quand même. C'est une comédie. Mais souvent, à la fin du film, j'ai fait pas mal d'avant-premières, on me parle quand même du côté émotion et du côté ça touche les gens dans leur vie à eux. Donc, bon, c'est toujours bizarre que ce soit moi qui le dise, mais ça fait plaisir à entendre.
Donc, ton film, c'est l'histoire d'un gars qui veut revivre sa vie passée et qui comprend que le monde a changé, même si ce n'était pas le cas dans sa tête.
Ouais. Et que sa famille a changé.
Et que sa famille a changé, bien sûr. Il retourne, par exemple, dans un restaurant où les propriétaires ont changé. Dans son ancien appartement, il y a des nouveaux locataires, etc. Voilà, si tout était intact dans sa tête, les choses ont évolué. Est-ce que tu serais capable de faire comme le personnage de José Garcia et revenir sur les traces de ton passé?
Mais justement, l'idée de base vient de ça. C'est-à-dire qu'en gros, un jour, alors je te raconte ça, j'avais, je pense, 24 ans, donc ça date, hein, c'était ouais, 8 ans, un truc comme ça. Je suis en voiture et je passe devant l'immeuble où j'étais étudiant, où j'ai vécu pendant ma fac. Voilà. Je passe devant et je vois la fenêtre. Mon appart, il donnait sur la rue. Et donc, je vois la fenêtre ouverte et je vois un tout petit peu de l'intérieur et tout. Et je fais, putain, j'aimerais trop voir à quoi ça ressemble, quoi. Et vraiment, je me gare, je vais devant la porte et le digicode a changé. Donc, ma quête s'arrête extrêmement vite. Je retourne dans ma caisse, je roule et ça m'obsède. Et ça m'a obsédé pendant une semaine, deux semaines de me dire, mais putain, à quoi il ressemble cet appartement? J'aurais bien foutu les pieds et putain, j'aurais bien aimé voir. Et au bout d'un moment, je me dis, mais t'es complètement cinglé. Enfin, cinglé. Qu'est-ce que tu crois que c'est devenu? Franchement, j'avais quitté cet appart il y a 4 ans. C'était un 18 mètres carrés. Donc, autant dire que le gars a pas dû, ou la meuf a pas dû réinventer toute l'architecture de l'endroit. Et je trouvais ça fou d'être aussi nostalgique d'un truc il n'y a pas si longtemps et qui n'est pas si intéressant. À ce moment-là, je suis sur le point de faire bloquer. Qu'est-ce que je veux aller visiter mon ancien appartement étudiant? Et ça, c'était mon pitch de départ, de dire bah, évidemment que ça a changé, évidemment que ça va être décevant. Et on était un peu déjà dans le centre de cette nostalgie qui est toujours aussi présente. On en est à Star Wars 17 et Avengers 14. Et donc, je m'étais dit, ah, je crois qu'il y a un truc intéressant. La nostalgie, c'est un truc qui est très présent chez moi, mais qui n'est pas l'aspect préféré de ma personnalité. Et je trouvais ça intéressant de le traiter, je trouvais ça intéressant de s'en moquer. Et en même temps, je trouve ça très touchant. En fait, moi, j'aime bien les personnages qui ont des caractérisations où c'est drôle et en même temps un peu tristoun, quoi. Et je trouve que la nostalgie, ça a les deux. C'est un peu marrant d'être nostalgique. Ouais. Tu te mets dans une époque qui n'existe plus, tu vois. Enfin, voilà, moi, j'ai un t-shirt Smashing Pumpkins quand on en parle et tout. Et en même temps, c'est un peu ridicule parce que bah, t'as vieilli, quoi. Donc, c'est toujours un peu... Et ça, c'est ce qui me plaît beaucoup en comédie. Donc, c'était totalement logique de parler de ça. Donc, je suis pas... Je pense que j'ai peur d'être Christophe, le personnage que joue José Garcia. Donc, ça fait partie de mon process d'écriture, c'est d'avoir peur qu'il m'arrive ce qui arrive au personnage principal.
Une première œuvre, en général, voilà, qu'on fasse 100%, entre guillemets, c'est la résultante d'une vie. On met vraiment ce qu'on a au fond de ses tripes. Donc, l'histoire voilà, de séparation, de parents. J'imagine qu'il y a des choses dans le film qui ont jalonné ta vie. Et si on connaît un peu bien tes travaux, moi, je ne pense pas connaître à fond, mais il y a toujours une histoire de daron avec
ouais,
qui
ouais.
C'est pas la folie.
Ouais.
Même ce que tu as écrit pour Le Caplain.
Ouais, on en parle aussi beaucoup. Ouais, bien sûr.
Voilà, dans le film, on trouve des bribes de relations que tu as pu avoir avec ta famille, ton père notamment.
Ah ouais, à fond. Ben, en fait, le film, c'est une fiction, mais pour écrire les personnages et pour toucher à cette sincérité, oui, évidemment, j'ai mis de moi. En plus, j'ai tendance à penser, c'est ce que j'ai toujours fait, que plus on est sincère, plus on est universel. Pourquoi, quand j'écoute Aurel San, qui a grandi à Caen et que j'ai jamais foutu les pieds en Normandie, j'ai l'impression qu'il parle de ma vie. C'est dingue quand même. Et ça, je me le suis toujours dit. Ou pourquoi, quand je regarde Little Miss Sunshine, j'ai l'impression que c'est mon oncle, alors que c'est un Américain qui est homosexuel, alors que mon oncle n'est pas. Enfin, ce côté universel, de la fiction, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et c'est parce que je pense que ça vient de la sincérité des auteurs. Donc ça, j'ai essayé de le garder à fond. Après, j'ai quand même ma pudeur, tu vois. Il y a plein de choses de ma vie qui ne sont pas dans le film et même dans les traits de personnalité des personnages. Tout ce qui me paraissait, en tout cas, présent chez d'autres darons ou d'autres daronnes et d'autres ados, ouais, je l'ai mis à fond, je l'ai mis et je l'ai mis en me mettant... C'est un film qui a vraiment été écrit du point de vue des adolescents aussi, quoi. C'est aussi... je ne sais pas si c'est le résumé d'une vie, mais en tout cas, c'est le résumé de mes 10 à 20 ans, disons. Et j'ai essayé vraiment de me mettre dans mes chaussures de quand j'avais, entre mes 15 et 20 ans... et que je voyais mes parents s'engueuler, ou quand je voyais mes parents en même temps s'envoyer des blagues, ou des choses comme ça, et ce que je pensais de mes parents surtout. En fait, c'est ça l'important. J'ai écrit les parents comme je les voyais à l'époque, et j'ai essayé de faire abstraction de peut-être la maturité que j'ai depuis. Et en fait, sans vouloir spoiler, c'est aussi le trajet du film. C'est que je pense que quand t'es enfant, tes parents, tu les idolâtres, tu les idéalises. Puis quand t'es ado, tu dis, mais en fait, c'est des merdes, ils me déçoivent, c'est des cons, etc. Et quand tu deviens jeune adulte, tu dis, mais en fait, ils font ce qu'ils peuvent, c'est juste des humains comme moi. Et d'un coup, toi, tu fais tes erreurs et tu te rends compte que tes erreurs, elles ressemblent beaucoup aux erreurs de tes parents. Et c'est pas que tu reproduis un schéma, c'est que, enfin, peut-être, mais j'ai surtout l'impression que t'es humain, juste, et que tes parents, c'est des humains, et que tu comprends que tes parents, c'est des humains. Et que du coup, il faut avoir un peu d'empathie pour ça, parce que c'est pas toujours les jours faciles d'être un humain. Et voilà, c'était un peu ce que je voulais traiter via une comédie, parce que là, on dirait que je suis très sérieux, mais c'est un peu ça que je voulais raconter, ouais.
Pour incarner ses parents, tu l'as dit, José Garcia, Charlotte Gainsbourg, le pari sur le papier est fou, quoi. José Garcia, c'est l'exubérance, la dévotion totale. Je vais faire un parallèle énorme, on va peut-être me jeter des cailloux, mais pour moi, c'est ce qui se rapproche le plus d'Adam Sandler.
Ah bah, c'est ce que je fais tout le temps, j'arrête pas de le comparer à Adam Sandler. Bah, c'est vous, si tu le fais pas exprès, c'est incroyable, c'est le Adam Sandler français pour moi.
Et Charlotte Gainsbourg, les gens le savent peut-être pas, mais elle a fait comédie par le passé, là ça fait un moment qu'elle n'en avait pas fait, mais c'est vrai qu'elle a cette image un peu vulgairement un peu à deux temps et tout. Donc les mettre ensemble, c'est quand même un sacré pari. Et José Garcia en plus qui joue le gars dans le rôle, voilà, un peu un descendu patriarcat macho, ouais. Qu'on aime détester, en même temps on l'aime bien.
Ouais.
Pourquoi ce choix d'acteur tout simplement? Est-ce que ça a été facile de les avoir? Est-ce que c'est ceux que tu avais en tête? Voilà, je veux tout savoir.
Alors c'est ceux que j'avais en tête dès le début. Ça c'est quand même la chance que j'ai eue. J'ai mis du temps à les avoir parce que c'était un premier film et que, par exemple, José, il n'était pas dispo au début, donc on est parti sur un autre acteur. On a fait des répètes avec cet autre acteur et puis il y a eu le Covid. Et puis pendant le Covid, les acteurs étaient tous stressés de plus travailler, donc ils acceptaient un milliard de projets. Donc autant te dire que moi, j'ai vite sauté pour l'autre acteur. Mais du coup, c'était bien parce que quand on a dû tourner, José était redispo, donc on a pu proposer à José. Enfin, bref, ça a été un peu des trucs. Mais Charlotte, on lui a proposé en 2020 et elle n'a pas bougé depuis 2020 alors qu'on a eu des changements d'acteurs, comme je te l'ai dit, etc. Et elle a toujours été d'un grand soutien, ce qui m'a toujours beaucoup touché parce que, à part le film d'Yvan Attal, Ma femme est une actrice, donc Yvan Attal qui est son compagnon, elle n'a jamais fait de premier film, Charlotte Gainsbourg. Donc moi, je me sentais très touché et très chanceux d'avoir cette meuf si drôle. Bah, José Garcia, effectivement, vu que son personnage est dur, en vrai, il faut le dire, il n'est pas sur une ligne, son personnage. C'est quelqu'un qui a été très marrant, très sympa, c'est un père aimant. Je pense qu'il aime énormément sa famille. Ça, on ne peut pas douter de son amour. Mais ce n'est pas une excuse. Pour des fois être un sale con. C'est pas parce que t'aimes ta famille que t'as le droit d'être un sale con. D'ailleurs, le film parle de ça. Et de temps en temps, dans le film, il a un côté sale con, mais parce que c'était important. C'est effectivement, c'est un peu le produit du patriarcat. On essaie toujours de faire mieux. Je pense que, tu vois, on a encore du travail tous à faire, mais je voulais pas cacher le fait que quand il est en colère, il tape sur la table. Je voulais pas cacher le fait qu'il peut être cruel parce qu'il y a des mecs comme ça et que justement, l'idée, c'est de le faire évoluer et qu'il apprenne des choses de son comportement aussi. C'est si tout ça, l'idée de la scène, sans trop divulgâcher, la scène de Voici les clés. À un moment, il y a une chanson, Voici les clés de Gérard Lenormand. Je vous invite à lire les paroles. C'est une énorme chanson d'amour, très, entre guillemets, dans l'idée, belle, parce que c'est sur un amour qui s'arrêtera jamais, etc. Mais si vous lisez, c'est un amour culpabilisateur, c'est un amour où tu mets les enfants dans l'équation, où tu te mets en compète avec le nouveau gars de ta meuf. C'est une chanson horrible, en fait. C'est de l'amour, mais mal placé, entre guillemets. Ça, pareil, je voulais en parler, je trouvais ça intéressant. Surtout dans un film, effectivement, dans un genre aussi codifié que la comédie familiale, enfin, la comédie sur la famille. Facile à les convaincre, écoute, ils ont aimé le texte, ils ont aimé notre relation. Je pense qu'ils étaient touchés qu'un gars, quand j'ai tourné le film, j'ai 32 ans. Donc, je pense que ça les a touchés qu'un gars de 32 ans vienne... Non, 31. 31 ans, j'avais à l'époque. Donc, ils étaient ravis, quoi. Je pense qu'un jeune réal vienne les chercher. Et ils ont aimé la gymnastique. Le côté, c'est des personnages très réels. Et en même temps, il va se passer des scènes complètement fucked up. Ça, je pense que ça leur a bien plu. C'est ce qui effrayait Charlotte aussi, d'ailleurs. Parce que Charlotte est quelqu'un de... Son talent est proportionnel à son angoisse de pas être drôle, de pas être fort.
Il ne se trouve pas drôle, il paraît.
Ouais. Exactement. Alors que, bon, toi qui as vu le film, c'est quand même... c'est exceptionnel. L'idée de les mettre en duo, effectivement, José, c'est la Adam Sandler français pour moi. Donc, ce qui est génial, c'est que ce mec, on l'a vu dans Le Boulet, dans Le Mac, même dans le dernier Astérix, il y a de la perruque, il y a des fausses dents. Et quand il prend des accents, enfin, pour des rôles, il peut vraiment se donner à 4000%. Et du coup, quand il enlève tout ça, comme Adam Sandler, je trouve qu'il y a une émotion dans son œil, il y a un truc d'enfant.
Ouais, chez Costa Gavras.
Mais il avait fait des drames aussi, mais vu que moi j'étais un peu entre les deux, c'est-à-dire que des fois il a des moments de comédie et des fois du drame, quand il passe de l'un à l'autre, et même quand il passe dans la colère, parce que des fois, encore une fois, il a des scènes un peu cruelles même dans le film. Je trouve qu'il se passe des choses en tant que spectateur, parce que d'un coup il y a aussi, mine de rien, le passif de l'acteur où tu dis putain, c'est José Garcia, je l'adore ce mec. Et là il est horrible, du coup je suis un peu embêté de comment me sentir vis-à-vis de ce monsieur, quoi. Et ça, je trouvais ça super. Et Charlotte Gainsbourg, comme tu l'as dit, je pense qu'elle est cataloguée un peu drame, mais pour moi, c'est une grande actrice de comédie. Moi, la première fois que je vois Charlotte Gainsbourg au cinéma, c'est Prête-moi ta main, je pense. En tout cas, c'est mon plus vieux souvenir. Et elle a toujours un peu jonglé entre les deux, parce qu'en fait, elle a joué chez les plus grands auteurs de comédie. Elle est dans Merci la vie de Bertrand Blier, dans La bûche de Daniel Thompson. Elle a carrément eu un César pour la bûche. Donc, moi, je trouve qu'elle fait les deux. Et c'est ça qui est rigolo, d'ailleurs, c'est que José est un acteur catalogué très comédie, mais qui a fait des drames. Et Charlotte est une actrice cataloguée drame, mais qui a fait des comédies. Ça tombe bien, moi je voulais faire les deux. Donc,
et ça tombe bien parce que tu voulais une actrice genre Charlotte Gainsbourg.
Ouais, ça c'est l'anecdote que je raconte de temps en temps.
Folle,
c'est que quand je pitch le film à mes producteurs, ils me disent tu vois qui pour le rôle de la mère. Et c'est vrai que c'est pas forcément simple parce que le cinéma français étant ce qu'il est, j'allais te dire la société française étant ce qu'elle est, il n'y a pas beaucoup de meufs de 50 ans qui travaillent en tant qu'actrice, tu vois. Donc il n'y a pas un milliard de choix, quoi. Et moi je dis il faudrait une meuf genre Charlotte Gainsbourg. Il me dit, pourquoi tu dis genre Charlotte Gainsbourg? Et en fait, c'est parce que elle dira jamais oui. Enfin, les gars, vous êtes des fous. Je suis Florent Bernard, c'est Charlotte Gainsbourg. C'est mon premier film. À l'époque, elle a refait une comédie il n'y a pas longtemps, celle de Boone. Mais à l'époque, elle n'avait pas fait de comédie depuis Samba. Et encore, Samba, c'était quand même son rôle. Il était plutôt une dépressive. Donc pour moi, c'était mort, quoi. Et ils me disent, en fait, écoute, on est en train de faire un film avec elle. On produit son documentaire qu'elle a fait sur sa mère, Jane by Charlotte. Donc on peut lui faire lire. Et elle a lu et elle a kiffé. Et ce qui était génial, c'est que José comme Charlotte, mais surtout Charlotte parce qu'on a eu plus de temps ensemble, ça a été une vraie collaboration sur son personnage où j'étais touché. Elle m'a dit qu'aucun réalisateur n'avait fait ça avec elle. Je trouvais ça dingue. Où moi, je lui ai fait lire une version qui était la V4, V5. Ce qu'il faut savoir, c'est très peu. Le V4, V5, par exemple, le scénario du film, il y en a 13, 14. Donc, c'est assez tôt dans le processus. J'ai dit non, moi, je veux qu'elle lise assez vite. Pas comme ça, je vais faire évoluer le scénar avec ses retours, ce qu'elle entend, etc. Et ça, elle m'a dit putain, mais moi, j'avais jamais fait. Moi, je dis oui ou non, quoi. Et je lui dis, non, moi je suis à l'écoute parce que toi t'es une mère de 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? Moi je le suis pas, donc j'ai envie de me nourrir de ça aussi. Et du coup elle me disait, là je trouve qu'on comprend pas pourquoi elle quitte le mari. Je fais, si, ça. Et elle me dit, franchement, je trouve que du coup elle a un peu un rôle de méchante si on n'explique pas mieux. Ok, je repasse, je retourne bosser, je lui fais lire, ça je kiffe et tout. Et moi j'adore la collaboration et j'aime que les acteurs viennent contents. En fait, si les acteurs ils viennent sur ton tournage et qu'ils sont pas sûrs de telle scène ou de l'arc de leur personnage ou de choses comme ça, quel est l'intérêt? Tu vois, par exemple, pour la scène, je vais pas trop spoiler, mais en même temps, il y a une annonce, mais pour la scène avec Simon Astier du gendarme, la scène n'était pas exactement comme ça, et je sais pas, je la relis, je trouve qu'elle manque de comédie. Donc je lui envoie, je dis, est-ce que faire ça avec le volant, ça te ferait marrer et tout? Elle me dit, ah ouais, carrément, trop bien et tout. Et du coup, quand elle arrive sur le plateau, elle est super généreuse, tu vois, parce que tu sens qu'elle est aimée par le metteur en scène, qu'elle est aimée par le metteur en scène, et qu'elle sent que l'idée, c'est qu'elle soit géniale dans le film. Moi, j'ai pas d'autre ambition. C'est cool si le film, les gens le trouvent beau, qu'ils le trouvent, que la bande-son est cool, tout ça, mais Le vrai truc de base, c'est que les personnages vous touchent. Et ça, ça passe que par l'amour que je peux porter aux comédiens. Et moi, j'ai ne travaillé qu'avec des gens dont je suis fan. Et Charlotte Gainsbourg et José Garcia en tête.
Et puisque tu parles de ça, même les personnages secondaires, même s'ils viennent juste pour une scène, on sent que voilà, tu as bossé avec eux, que c'est quelque chose de taillé sur mesure finalement. Parce que tu arrives à faire marrer, à toucher. On découvre un petit background chez eux.
Ouais.
Le caricaturiste.
Ah, tu me fais plaisir, ça.
Jérôme Niel... Adrien Méniel, tu l'as dit ça dans d'autres interviews, tu n'as pas voulu serveur 1 et voilà, tu feras ça. On sent que tu as bossé les personnages avec eux, que tu leur as créé une petite histoire. Et pour être touché, on ne va pas se mentir, il faut des points d'ancrage comme ça. Il faut enfin, les comédies ou les drames qui nous touchent, et c'est à cause de ça. On peut être touché par un personnage secondaire aussi. Quoi.
Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime au cinéma. L'exemple que je cite souvent, alors il y a Judd Apatow, dont je suis fan absolu, qui fait ça très bien. D'un coup, tu regardes This is 40 et puis il y a Melissa McCarthy, elle a une scène, mais c'est ça où je me dis des fois ils ont qu'une scène, mais c'est la scène quoi. En fait, c'est pareil, c'est la générosité avec le comédien. Je veux que si le comédien il vienne, il sente qu'il ne vient pas servir le plat aux personnages principaux. Non, tu vas avoir un truc marrant à jouer et à la fin du film, ça se trouve, on dira moi, ma scène préférée, c'est la scène de ce gars. C'est important.
C'est important. Presque un film à sketch, enfin, dit vulgaire.
Ouais, non, mais en fait, c'est ça qui m'emmerde avec le terme film à sketch, c'est que pour moi, c'est pas du tout un défaut. Tu vois, pour moi, Mission Cléopâtre est un film à sketch. Les films de la bande à Fifi sont des films à sketch. Enfin, il y a des chefs-d'œuvre du cinéma qui sont des films à sketch.
Toi qui étais admin de Tarantino.
Tarantino Fiction, bah bien sûr. C'est, Tarantino, il chapitre. Ouais, bien sûr. Pulp Fiction, c'est un film à sketch. Bon, bah, il a la palme d'or, donc c'est pas si mal. Mais parce que moi, quand on dit film à sketch, j'entends. Film avec des scènes que tu peux citer à la fin. Moi, je trouve ça chouette quand à la fin d'un film, moi, je discutais beaucoup à la sortie des films. Putain, il y a la scène du caricaturiste, moi, je l'ai adoré. Ah bah ouais, moi, c'est la scène du restaurant, moi, c'est la scène de là. Je trouve que c'est important, en fait, dans ton plaisir
c'est identifié,
de spectateur.
Quoi.
Ouais, grave. Et puis, moi, je sais pas, je pense au futur. Je me dis, ben voilà, quand le film il sera sorti, que peut-être il aura fait sa vie, etc. Peut-être les gens ils mettront des extraits sur TikTok, sur YouTube et c'est important ça aussi, tu vois, il faut que le film il existe à travers d'autres choses. Et pour répondre à ta question, ouais, j'avais envie que les second rôles se sentent servis. Et le côté background, ça me fait super plaisir que tu dises ça et que tu l'aies senti, parce que c'est vrai. En gros, c'est là où le côté, quand on le dit en défaut, film à sketch, ça me fait chier parce que j'ai un peu bossé pour que ce soit pas gratos, quoi. C'est-à-dire que les personnages ont un impact sur l'histoire, les personnages secondaires ont un impact sur l'histoire qui est toujours logique avec le trajet de la famille. Quand Jérôme Niel, il joue un fils... complètement starbé, mais son père, là, en fait, c'est l'enfant d'un divorce. Donc forcément, ça va affecter le personnage de Charlotte Gainsbourg.
Ouais, il y a presque un effet Inception, quoi.
Ouais.
Parce que c'est des problématiques où leur background fait un rappel à ce que vivent les Leroy, quoi.
C'est ça. Et quand la chauffeuse de bus engueule José, il redevient un enfant, donc il se met au niveau de ses gosses. Et rien n'est gratuit, quoi. L'idée, c'est que chaque personnage ait un impact déjà comique, parce que c'est quand même ça aussi le but, et aussi un impact émotionnel pour que ça fasse évoluer le personnage. Mais c'est vrai que quand je regardais la big picture, ça pour le coup, j'avais pas fait exprès. Tous les second rôles, c'est des gros losers, quoi. Ça, j'avais vraiment pas fait gaffe. Mais c'est vrai que le patron de Charlotte Gainsbourg, qui est joué par Tranier, comme Jérôme, comme Sophie Marie, comme tous ces gens, tous, c'est un peu des gros losers. Mais moi, je suis un enfant de ça. Je cite Apatow, je pourrais citer le Splendide. Pourquoi dans Les Bronzés font du ski, une des scènes que les gens retiennent le plus, c'est Roland Giraud, qui arrive vers Thierry Lhermitte, et il vide le sac, il joue juste le mec de la meuf que baisait Thierry Lhermitte. Ouais. Il a même pas de nom dans le film, hein. Et pourtant les gens se souviennent du « je ne me vous mets pas mon poing sur votre gueule ». Les gens ils s'en souviennent de ça, et ça j'adore cette générosité-là. Clavier, en tant que scénariste, il a tout le temps cette générosité. Tu regardes Les Visiteurs, oui il y a Le Mercier, oui il y a Reynaud, il y a Clavier, mais Christian Bugeaud qui joue le dentiste, Bénureau qui joue l'infirmier, le flic, même le... Moi, il y a le serveur qui court, le serveur du campanile avec le fusil, qui est avec le fusil et qui court, qui dit « Elle est revenue, machin et tout », et qui tire sur... Tout le monde a des blagues, quoi. J'adore cette générosité-là parce que, bah, tu vois, moi, j'ai fait La Flamme. J'aime bien quand il y a une grosse générosité en comédie. Moi, ça ne me dérange pas que tu rigoles pas à toutes les blagues. Moi, je rigole pas à toutes les blagues devant des classiques de comédie, tu vois. Mais vu qu'il y en a tout le temps...
Chacun aura la sienne, quoi.
Ouais, je sors content. Je me dis, moi, quand je vois une vanne où je vois que la mise en place de la blague, elle met 3 minutes et que la blague ne me fait pas tant rire que ça, bah du coup, tu te fais chier. Et moi, je veux pas que les gens ils se fassent chier. Alors moi, tu peux dire ce que tu veux de mon film. Hein. Tu peux pas l'avoir trouvé drôle, pas l'avoir trouvé touchant, tu peux le trouver machin. Mais ce qui me vexerait le plus, c'est que tu me dises, oh, je me suis fait grave chier devant ton film.
Non, c'est pas possible.
Et bah, c'est possible. Non, mais attends, c'est toujours possible. Hein. Chacun a son. Si t'adhères pas émotionnellement, tu peux te faire chier, par exemple. Mais j'ai tout fait en sorte pour qu'on s'ennuie pas, parce que moi, c'est le défaut numéro un des films. Il y a plein de films où je n'ai pas aimé parce que je me suis fait un peu chier. Donc, je suis sorti du film. Donc, une fois que tu es sorti, c'est difficile de re-rentrer. Quoi.
En tout cas, ces personnages secondaires, vraiment, moi, je les ai trouvés utiles. Ils faisaient écho à la vie des Leroy. Il y avait toujours un petit sentiment d'oie-mère, mi-figue, mi-raisin, surtout Adrien Méniel. t'es touché, t'as envie de te marrer, tu sais pas trop quoi penser.
Ouais, bah c'est le but. Moi, on est fan de Jaoui Bakri, Méniel et moi, et ça aussi, pareil, c'est beaucoup leur cinéma qui m'a inspiré. Et...
Bah, Bakri, le goût des autres, c'est Garcia, quoi.
Ouais, bah écoute, c'est gentil.
C'est le gars.
C'est un des plus beaux. Merci, parce que c'était vraiment. En fait, je me souviendrai toujours de la première fois que je vois Le Goût des Autres, et quand le film se termine, et je fais, mais putain, je suis passé par tellement d'émotions avec ce perso. C'est-à-dire que au début, je me suis foutu de sa gueule. Après, je l'ai vraiment détesté. Après, il m'a touché.
Parce que c'est un mec raciste,
ouais,
un
culte. Ouais, en tout cas, homophobe.
Il a tout,
con, en fait, c'est un con, c'est un blaireau, quoi. Et en même temps, d'un coup, il est d'une grande intelligence et il est fort dans son taf. Et en même temps, il aime sincèrement cette meuf. Mais en même temps, il est un peu... Il est comment dire, oppressant avec cette meuf. Et je me dis, mais putain, je suis passé par tous les sentiments humains de la Terre sur ce personnage, alors qu'il n'existe pas et que j'ai passé que une heure et demie avec lui. Et encore, il y a d'autres histoires. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire avec mes personnages. Je ne comparerai jamais au grand talent d'Agnès Jaoui, mais oui, c'était une idée que j'avais en tête. Ouais.
Bon, tous les personnages sont géniaux. Les enfants, les gens les connaîtront moins, mais je vous invite à vous pencher sur eux et à les suivre.
C'est des génies.
Incroyable.
Ouais, bien sûr.
Louis Rego.
Ouais, bien sûr, trop cool aussi.
Pour ceux qui ont écouté mon épisode avec Adrien Gallo, c'est grâce à ce mec-là qu'Adrien Gallo a fait de la guitare et dans les Bébés Brunes et tout, parce que c'est un pote de son père. Je vous invite à écouter.
Génial.
Ensuite, sur le décor dont tu as filmé dans ta région d'origine, région des centres commerciaux, enfin tout ce qui vient de province, on connaît les Buffalo Grill, les courtes pailles,
les soirées, les nozes, bien sûr,
les fly, les soirées McDo bowling, et on est au bout du monde. Ça, tu l'as dit, je trouvais ça très intéressant, des décors de western, des hôtels à hauteur, rien de trop grand.
Ouais, en fait, il n'y a pas d'étage, c'est ce que je dis souvent en interview, il n'y a pas d'étage dans ces endroits-là, et du coup, quand tu les filmes, il y a du ciel tout le temps. Ça, j'adore, et puis la nuit. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui. D'ailleurs, ça nous a un peu fait chier sur le tournage. Il a fallu qu'on triche. Mais la nuit, quand j'étais gamin, tout était éclairé. Tu vois, donc c'était Las Vegas là-dedans. Quoi. T'avais du jaune, du bleu. Tous les logos étaient. Et il suffit qu'il n'y ait plus avant. Ça reflétait sur le sol. Enfin, c'était magnifique. Quoi. Et ça, j'avais envie de le filmer comme les Ricains filment leur station essence, leur diner, leur truc comme ça. J'avais envie de filmer ces endroits-là de la même manière.
Et moi, là où je pense que ton film, il va cartonner, je le dis sans aucune flagornerie,
c'est que
tu parlais d'Orelsan, quand on a tous écouté Perdu d'avance, son premier album, ça nous parlait, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont grandi dans des régions comme celle que tu filmes que dans les 200 mètres carrés des apparts de Paris qu'il y a dans d'autres comédies, quoi.
Ouais,
donc, je pense que ça va vraiment faire écho. Ouais.
C'est ça, j'ai l'impression qu'en plus, c'est en train de changer, ça. Moi, j'ai vu plein de comédies où c'est de plus en plus, les endroits où on a grandi. Et puis surtout, quand je suis arrivé à Paris, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de Parisiens. Les trois quarts, il y en a qui viennent de Bretagne, de Normandie, du sud de la France. Voilà. Et là, tu vois, je fais la tournée d'avant-première. Les multiplexes sont souvent dans des zones commerçantes. Donc forcément, oui, la zone commerçante, c'est un décor français. Il faut se l'assumer une bonne fois pour toutes. Il a déjà été filmé. Hein. Je ne suis pas venu avec une grande idée. Les Caravanes des Lépines le font très bien. Mais moi, j'avais vraiment envie de mettre cette culture américaine, ces travelling, ces ralentis, vraiment en faire des caisses. Parce que pour moi, c'est beau. Vraiment, je le fais sans... Comment dire, j'essaye pas de m'approprier une classe qui n'est pas la mienne. Moi, j'ai grandi dans ces endroits-là et je les trouve sincèrement beaux et j'y suis encore bien, par nostalgie, on y revient, mais j'y m'y suis encore bien dans ces parkings.
Toujours sous la forme, film très généreux en termes de dialogue, très verbeux,
ouais.
Il se passe beaucoup, beaucoup de choses.
On reste français, monsieur.
C'est difficile, ça, à faire ?
Je sais pas, j'ai toujours fait ça. Donc, en gros, pour moi, c'est pas difficile parce que c'est mon ADN. Ce qui, je pense, donne un peu l'intérêt du film, c'est que c'est une comédie de dialogue sur des gens qui n'arrivent pas à se parler. Donc, ça, c'est assez intéressant. Moi, je voulais parler du manque de communication dans la famille. Le faire par une comédie avec beaucoup de dialogues, ça, c'est kiffant. Je pensais beaucoup à Alexandre Astier aussi. Alors, pour le coup, j'écris pas du tout comme lui, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il mélange des classes de langage, il les confronte. Voilà, moi, j'essayais de faire ça aussi un peu à mon niveau. D'un coup, des personnages arrivent avec leur façon d'être, leur façon de parler, ça se confronte à un autre, et en même temps, ils s'envoient des fions. Moi, j'aime bien la répartie au cinéma. Donc, ouais, non, c'était assez. C'est comme ça que je fais, quoi. Donc, c'était la suite logique, en fait.
Il y a eu pas mal de projos, là, en avant-première. J'imagine que ça avait une saveur particulière pour toi. Comment ça s'est passé, le rapport aux gens
Très bien, en fait, c'était... Pour le moment, ça se passe bien. Alors, c'est toujours un peu bizarre de dire ça, puisque là, le film sort la semaine prochaine, quoi, à l'heure où on en parle, il sort le 10 avril. Donc là, je suis encore un peu dans l'angoisse de est-ce que les gens vont kiffer. Là, c'est surtout le public qui suit le Floodcast, qui vient aux avant-premières, même si on a des fois, c'est un peu plus mélangé. Et en même temps, le public qui suit le Floodcast, par exemple, le Floodcast, c'est mon podcast que je fais avec Adrien Méniel. C'est pas le plus tendre, hein, c'est pas le plus gentil, mais c'est ça que j'aime chez eux, c'est que ils me disent cet épisode moins bien, ou même j'ai pu travailler sur d'autres films ou des séries, et quand ils aiment pas, hein, ils te disent, hein, ou ils vont pas voir ce que tu fais, et c'est bien, c'est sain, je trouve. C'est pas ça m'évite de penser que je suis un Worlds Apart ou Philippe des To Be Free, quoi. Donc j'étais quand même angoissé, et dans la grande majorité ça se passe plutôt bien. Et puis c'est toujours très stressant parce qu'il y a un truc de, il y a des gens qui suivent ce que je fais depuis presque 10 ans. Et là, c'est pas un aboutissement, mais en tout cas, c'est une grosse page qui se tourne de faire un film. et de me dire bah si ça ça leur plaît pas, putain, j'ai vraiment mis mon cœur sur le truc quoi. Donc si ça ça plaît pas, il y aura une grosse remise en question. Donc tant mieux si voilà, d'entendre les rires en tout cas, ça c'est très agréable parce que moi qui viens d'internet, je lisais des c'est drôle ou des c'est pas drôle, mais là d'avoir les réactions en direct, ça c'est exceptionnel.
Est-ce que ta famille l'a vu ?
Ouais. Ça va.
Et pour faire une petite ref, est-ce que tu as senti quelque chose couler sur ta vie ?
Ouais, bien sûr. Non, écoute, non, je suis surpris de voir quand est-ce que ça fait couler des trucs sur les joues. Non, mais
petite
c'est
ref
vrai.
Du Rendal. Hein.
Ouais, bien sûr. Salut. J'ai hâte de voir ce qui pensera du film. Je suis toujours intéressé de ce que pensent les gens, de toute façon, en général. Il avait mis Vermine dans son top 2023, donc je me suis dit, ah tiens, c'est marrant. Il ne doit pas savoir que j'ai fait des blagues à une époque. Mais ouais, je suis assez surpris de ce qui émeut les gens. Il y a une phrase que je ne vais pas dire là parce qu'elle spoil un peu. Il y a une phrase qu'on me ressort très souvent et je te jure, au moment de l'écrire, je ne pensais pas. Et du coup, tu dis, ah, c'est rigolo. C'est bien qu'il n'y ait pas de règles établies.
Et pour conclure cet entretien, tout simplement, quels sont tes projets ? Bah, déjà, la sortie du film, j'imagine.
Ouais, il y a le film.
C'est un gros truc.
On va essayer de finir la saison du Floodcast aussi, quand même, jusqu'à fin juin, début juillet. Sachant que l'année prochaine, c'est les 10 ans. Donc, on va aussi essayer de réfléchir avec Adrien sur un truc à faire. Et en long métrage, bah, j'écris le prochain Evil Dead, la saga d'horreur avec Sébastien Vanitschek. Sam Raimi et son équipe sont allés le chercher, il m'a pris dans ses bagages. Donc là, en ce moment, on est en train d'écrire le prochain Evil Dead, en espérant que ça se fasse. Evil Dead, d'ailleurs. Evil Dead, je l'ai dit en France, et dès que je suis en Zoom avec eux, je fais Evil Dead. Donc je bosse mon anglais en ce moment, c'est assez intéressant. Et on écrit ça beaucoup, là. C'est vrai que là, ça prend quand même pas mal de mon temps, vu qu'il y a aussi la sortie du film. Et l'idée, c'est de faire mon deuxième après, voilà, mon second long métrage. J'aimerais beaucoup, j'ai une idée, j'ai un pitch, j'ai même une trentaine de pages, mais là, c'est difficile de s'y mettre vraiment. J'attends déjà de sortir celui-là, voir comment il va être reçu, comment les gens vont le prendre, le réagir avec. Et après, je finis Evil Dead, et après, je pourrais vraiment me mettre à fond sur ce film.
Toujours plein de projets.
Ouais, en même temps, pas tant, parce que quand t'es scénariste, les gens, ils le voient pas, mais t'es sur 1000 projets qui se font pas. Moi, je regardais, je faisais la liste, j'ai écrit 12 scénarios qui se feront jamais. Tu vois, c'est énorme. Là, du coup, je fais beaucoup moins de projets qu'avant, c'est juste qu'ils se font. Donc, du coup, on a l'impression que je bosse plus. Mais en vérité, ça va.
Ben merci beaucoup, Florent.
Merci, monsieur. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Florent Bernard. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et vous abonner à Cadavre Exquis sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.